On a la page 33 à 2. Commence une nouvelle Mishnah. Et Bezrat Hashem, c'est la dernière Mishnah, la dernière Mishnah du deuxième chapitre de Bava Metzia et Elou Metziot. Donc je pense vers la fin du mois de Hadar, on aura fini, si Dieu veut, le Perek et Elou Metziot.
On va faire tout le livre.
D'accord. Bah après, on passera à Mafkid, si Dieu veut. À Mafkid, c'est le chapitre suivant. Et après, si tu veux, on reviendra au premier chapitre, Shnei Mochazim. On avait commencé un peu, mais il était un peu compliqué, donc on fera un troisième. Si Dieu veut. Dans un an et demi environ.
Si Dieu veut.
Alors, notre Mishnah va parler d'un cas dans lequel un homme a perdu quelque chose, donc il doit aller le chercher, et son maître ou son père a également perdu quelque chose. Donc la question se pose, quelle est la priorité, laquelle je vais chercher en premier ? C'est possible que je peux trouver qu'une des deux. C'est-à-dire que j'ai pas le temps. C'est ou soit tu vas chercher l'un, soit tu vas chercher l'autre. Par exemple, au fond de la mer. D'accord ? On va donner plusieurs exemples. C'est possible que j'ai le temps de chercher les deux, mais plus tu as tant de temps avant d'aller le chercher, et plus tu as de chances de ne plus le retrouver. Donc c'est une question de priorité. La question qu'on va se demander dans la Mishnah, c'est qui c'est qui passe avant ? C'est un premier cas qu'on va voir dans la Mishnah. Un deuxième cas qu'on va voir dans la Mishnah, c'est dans le cas où je dois honorer mon père et mon maître. Par exemple, si les deux sont en train de porter une charge, et je dois les aider à décharger. D'accord ? Donc, chaque seconde que tu laisses sur chacun, c'est une souffrance. Je ne peux pas les aider dans le même temps, c'est soit l'un, soit l'autre. Lequel j'ai en priorité ? Ça aussi, c'est une question qu'on verra dans notre Mishnah. On parlera aussi du troisième cas, c'est le cas de... Pour racheter quelqu'un de prison, d'accord ? Lequel passe avant ? Est-ce que c'est mon père ou est-ce que c'est mon maître ? On voit tout ça dans la Mishnah.
Quelle que soit la souffrance de l'animal, ça rentre pas en ligne de compte.
Là, on parle pas d'animal du tout.
La charge, je m'as dit.
Non, il est chargé, là, une charge sur ses
souffrances. Ah, son épaule à lui, oui.
Son épaule. Donc la Mishnah nous dit la chose suivante. Elle nous dit, Avedato va Avedat Aviv. Si une personne a perdu un objet, et son père aussi, et mon père aussi a perdu un objet. Donc j'ai l'obligation de Kivudavem, d'honorer mon père. D'accord. Et le problème, c'est que, comme explique les Mefarchim, là on parle d'un cas où je pense avoir une piste pour trouver, parce que c'est perdu, qu'est-ce que tu veux. Je pense d'avoir une piste pour être capable de le retrouver. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple de la mer. Par exemple, je sais, il y a deux objets qui sont tombés au fond de la mer. Et je pense que si je fais vite, je peux récupérer un des deux objets. Je pense que je peux le faire. J'ai une piste pour le récupérer. Donc lequel passe avant? Je peux prendre l'un des deux. Nous dit la Mishnah, Avedato Kodemet. Avedato Kodemet, ça veut dire ma perte passe avant de la perte de mon père. Alors là, on a parlé d'un cas précis, il se tombe au fond de la mer, mais en vérité, comme on verra dans la Gemara, c'est un principe qui est applicable partout. Ça veut dire que ma parnassa passera toujours en premier. Et on aura une preuve d'un pasouk. La parnassa d'une personne passe avant toutes les autres mitzvot. On verra. On verra
les exceptions.
En tout cas, avant Kivudavem, c'est sûr. On verra dans la Gemara, il y aura aussi d'autres mitzvot. Maintenant, Avedato va Avedat Rabo. Si maintenant j'ai le choix entre ma trouvaille, donc ma perte d'argent, et la perte d'argent de Vavedat Rabo, et la perte d'argent de mon maître, c'est toujours chez l'Okodem. D'accord ? C'est toujours ma perte qui passe en premier. C'est toujours ma parnassa qui passe en premier, mon argent qui passe en premier. Donc surtout suite à ce qu'on a étudié il y a deux semaines, dans lesquelles on a étudié que la Torah nous réclame beaucoup de Havat Israël, on serait attendu à ce que la Torah nous dit, fais un effort et va chercher celle de ton père. Ou fais un effort ou va chercher celle de ton maître. C'est pas le cas. Quand la Torah n'a pas dit ça. On verra dans la Gemara que la Gemara va être obligée d'amener un pasouk pour nous l'apprendre, parce que sinon c'est pas logique. Sinon, normalement, à Avat Israël, on va faire passer l'autre avant soi. C'est quoi cette histoire? Donc on verra dans la Gemara. Maintenant, on parle d'un deuxième cas. Avedat Aviv va Avedat Rabo. Si maintenant, une personne a le choix entre la perte de son père et la perte de son maître. Donc là, moi, j'ai rien perdu. Mon père a perdu quelque chose et mon maître a perdu quelque chose. Donc là, on parle de deux personnes. Il pourrait s'agir d'un cas où mon père est aussi mon maître. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est un, c'est mon père, et l'autre, c'est mon maître. Lequel il passe en premier? Les deux, j'ai l'obligation de les respecter. Mon père, j'ai l'obligation de respecter, et mon maître, j'ai l'obligation de respecter. Lequel passe en premier, d'après vous?
Le maître.
Ah, t'as lu. Alors, tiens, dis-moi si tu as compris.
C'est le maître.
Pourquoi le maître?
Parce son père l'a fait naître, alors que le maître va le faire naître dans le monde futur.
Faire renaître.
Ah, son père, il ne fait pas naître dans le monde futur?
Non.
Pas du tout?
Non. C'est lui qui lui donne, c'est le maître qui lui donne la sagesse, qui lui donne
Ratsum. On va voir, c'est pas si simple ce que j'ai dit.
Oui, c'était simple. Ratsum.
On verra dans la Gemara, c'est pas simple.
Parce que son père, s'il le crée pas, ça démarre même pas.
Oui, mais
pour le monde futur.
Son maître, s'il ne l'éduque pas.
Seulement ça, son père lui a fait la Brit Mila. Son père, il a fait la bar mitzvah. Son père, il l'a envoyé à l'école juive. Qu'est-ce qu'il fait avec tout ça?
Ah, il l'a envoyé à l'école juive.
C'est pas moi qui dis ça.
Non, d'accord, mais je pose la question.
Non, d'accord.
Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il en pense?
Je marquais après.
On n'a pas la notion de ce qu'il y a un maître.
C'est quand même avant que son père était un...
qui s'est décarcassé.
Et pas seulement ça, pas seulement ça. Qu'est-ce que c'est un maître?
Voilà.
Oui. Oui, c'est ça.
C'est ça, ça la question.
Il a fait une, comme Achitophel pour le roi David.
C'est quoi un maître? Il m'a appris un sujet, il m'a appris, c'est le maître de ma vie. C'est quoi un maître? C'est mon maître de pensée. C'est quoi le maître? On verra ça dans la Gemara. Donc, Avodat Aviv, Avedat Aviv et Avedat Rabo. Donc, là, entre la perte de mon père, bon, ça, le père, je vais vous en expliquer, on sait ce que c'est le père, et la perte de son maître, mais on verra dans la Gemara qu'est-ce que c'est le maître, parce que c'est pas simple. D'accord? On dit, dans ce cas-là, Shel Rabo Kodemet, toujours la trouvaille de son maître passera en premier. Pourquoi? Shel Aviv et Vio Leolamazé, parce que son père, il l'a amené à la vie de ce monde-ci. Rabo, Shelim de Chorma, alors c'est son maître qui lui enseigne la sagesse, mais Vio, il amène les Chaye à Olamaba. Mais Vio, le Chaye à Olamaba, ça veut dire que son maître, il va l'amener à la vie du monde futur. D'accord? Donc ça, c'est ce que Mme Farchim m'explique. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, on verra dans la Gemara. Ah, il y a des étincelles, il va y avoir quelque chose. Ça n'est jamais arrivé. Alors, là, oui, ça n'est jamais arrivé. Vous voulez bouger un peu le starter, M. Michel?
Oui, il est fatigué.
J'ai mis au lame l'okara, Khayav Liot, c'est Tamotima, c'est Ojama. Bruchniout. Donc il dit comme ça. Il dit, donc on verra dans la Gemara plus simple, on verra dans la Gemara qu'il y a plusieurs détails dans cette histoire de Rav. D'abord, on va faire une différence entre Rabo à Mouvhak et Rabo qui n'est pas Mouvhak. Entre son maître. Mouvhak, ça veut dire pertinent. Ça veut dire son maître, on peut dire qu'il a tout enseigné. Et son maître, que bon, j'ai appris quelque chose de lui, mais ce n'est pas mon maître. On verra dans la Gemara aussi qu'il y a une différence si c'est un maître qu'on a payé pour qu'il nous enseigne, ou si c'est un maître qu'on n'a pas payé pour qu'il nous enseigne. Il y aura une différence aussi. La Gemara ne le dit pas explicitement, mais le Farchim en parle. D'accord? Il y a des nuances, c'est pas si simple que ça.
Et même le père aussi, on peut parler sur le père.
Pour l'instant, le père n'a pas vu. Le père, c'est le père.
Non, mais il peut donner une éducation, il peut ne pas la donner non plus.
Et ben voilà. Le père, Chacham.
Là, il dit, le père, il a amené la vie de ce monde-ci. Il a fait naître.
Ouais, mais après.
Pour ça, déjà, il faut être reconnaissant. Après, le reste, c'est du bonus. Il a donné une partie de soi pour qu'un enfant y naisse. Donc, Vehimaya Aviv Chacham, si maintenant son père était Chacham, d'accord.
Toi, tu as Aya.
Oui, non, pardon. Il m'a vu Chacham, mais si son père était Chacham, c'est-à-dire si maintenant son père est également un Chacham, mais peut-être qu'il n'est pas aussi Chacham que son maître. Ah.
Peut-être qu'il ne lui a pas enseigné sa sagesse.
Et peut-être qu'il n'a pas enseigné sa sagesse, exactement.
Il est simplement sage.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a vu Chacham, mais si son père. Et si son père est Chacham. Alors, c'est intéressant parce que le Rif, d'accord, quand on voit la même Michelin, elle enseigne dans le Rif, mais enfin, c'est à la fin de la Gemara. Lui là-bas il dit Vehimaya Aviv Shakul Keneked Rabo. Il dit si son père était aussi fort que son maître. Et a priori la version qu'on a ici dans la Mishnah, c'est pas comme ça. C'est tout simplement Vehimaya Aviv Chacham. Si son père est Chacham. Alors c'est quoi la définition de Chacham? Là aussi c'est ambigu tout ça. C'est quoi un Chacham?
C'est pas un Rav, mais il est Chacham.
C'est quoi Chacham? Chacham, c'est quoi un Chacham?
C'est le contraire d'un idiot.
Bon, on verra tout ça. Il m'a vu Chacham, si son père est Chacham, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on nous dit? D'accord. Dans ce cas-là, on nous dit, tu me la ramènes, s'il te plaît. Shel Aviv Kodemet, d'accord. La trouvaille de son père passe toujours avant. Pourquoi? Parce que, on part de la base, comme on verra dans la suite, que certainement, son père, même si c'est pas son maître, certainement, il lui a enseigné quelque chose. Si son père est Chacham, c'est pas possible que dans toute la vie, il lui a rien enseigné. Donc puisqu'il a déjà enseigné quelque chose, donc quelque part, il a lui aussi amené au monde futur. Donc, monde futur plus ce monde-ci compte de l'autre côté que...
C'est plus lourd, c'est pas ça.
C'est pas si simple, parce que selon le Rif, il faut que le père soit aussi fort que le maître. Pas si simple.
Non, on serait en plus attendu dans la Mishnah, parce qu'on parle de la richesse des deux. Si le père est plus riche, si le père est moins riche que le maître, alors on va chercher le maître, on va chercher celui du père. Si le maître est moins riche...
On en a parlé plus tôt. La Michelin n'a pas très bonne question. La Michelin n'en parle pas parce que ça, c'est là, les guides, pardon, on est à la fin du deuxième chapitre.
Ah, vous l'avez déjà dit.
Et avant, on a traité beaucoup de cas. Okay. Au Khachev. Et dans les cas d'avant, on a vu que là-bas, on avait expliqué que quand on doit ramener une trouvaille, il n'y a pas de. Je ne vais pas dire, bon, d'un côté j'ai une trouvaille d'un pauvre, d'un côté j'ai une trouvaille d'un riche. On ne fait pas cette différence-là. On fait la première qui vient devant mes yeux. La première que j'ai rencontrée, tu prends.
On n'est pas en train de dire s'il doit sauver son père ou son maître. Là.
Oui, attention, on ne parle pas de sauver. Sauver, c'est la suite. Sauver, c'est la suite. On parle d'une trouvaille, là. On parle d'une perte d'argent. On verra que les implications, on verra dans la Gemara que les implications, il y a beaucoup d'implications. Par exemple, je suis au travail et mon père m'appelle et me dit, est-ce que tu peux me faire quelque chose? J'ai perdu quelque chose, ma voiture elle est en panne, est-ce que tu peux venir me chercher? Il est en train de perdre l'argent. Parce qu'il me dit, si tu viens pas me chercher, tu viens pas me dépanner, je vais devoir payer une dépanneuse, ça va me coûter de l'argent. Est-ce que tu peux venir? Donc mon père va perdre de l'argent, mais d'un autre côté, moi aussi je vais perdre de l'argent si je veux quitter mon travail. Alors lequel est pas le premier? Est-ce que j'ai le droit de dire à mon père, papa je peux pas? Papa, je peux pas, désolé. Est-ce que je peux ou je peux pas? A priori, d'après ce que le Mishnah dit, oui, on peut. Tac là-bas, c'est bien, d'accord, ça ne dérange pas. Bon, donc ça c'est un premier cas. Maintenant, deuxième cas de la Mishnah. Aya aviv verabo nosim masoi. Si son père et son maître étaient en train de porter une charge, et apparemment ils ont besoin d'aide pour décharger. D'accord, donc il faut se revenir dans la réalité de l'époque. Dans la réalité de l'époque, très souvent, on devait porter avec son dos, donc on attachait autour de son dos, et on a besoin d'aide pour décharger, comme un animal. Donc, si son père et son maître étaient en train de porter une charge, et qu'on a besoin de les aider pour décharger, lequel est pas son premier? Maniach et shel rabo. Tout d'abord, il va décharger son maître. Ve'ararkar maniach shel aviv. Et après, il va décharger la charge de son père. D'accord? Donc là, ce qu'on a de... Là, il y a un cas qu'on ne nous a pas dit ici, c'est que la Mishnah ne va pas dire si son père était chacham. Est-ce qu'il passe avant son maître ou pas? D'accord? Alors, on ne nous a pas dit ce cas-là. A priori...
Parce qu'on peut le déduire, peut-être.
Oui, on peut le déduire. C'est ce que le Rite Basi dit. Le Rite Basi dit qu'a priori, on peut déduire du cas d'avant. Et que la raison pour laquelle, ici, la Mishnah a eu besoin de nous enseigner un deuxième cas, bien qu'a priori, on aurait pu le comprendre du cas d'avant. D'accord? C'est que là, c'est plus une perte d'argent. D'accord? Là, c'est une souffrance du corps. Vous comprenez? Là, c'est une souffrance du corps. Et on aurait pu penser que puisque c'est une souffrance du corps, mon père qui m'a amené à la vie de ce monde-ci, d'accord, donc physiquement, il pourrait passer avant. Donc, c'est pour ça que la Mishnah te dit, même dans ce cas-là, qui c'est qui passe avant? C'est son père qui passe, c'est toujours son maître qui passe avant.
On voit que dans tous les cas, c'est toujours le même principe.
Oui.
Donc la Mishnah aurait pu faire une règle générale.
C'est ce que je viens de dire. Je veux dire que dans le premier cas, hein, c'était une perte. Dans le premier cas, c'était une perte financière. Parce qu'on verra dans la Gemara, on verra dans la Gemara que le pasouk duquel on apprend, que le maître y passe avant, pardon, que son argent passe avant, c'est un pasouk qui parle de l'argent, financièrement. Le deuxième cas qu'on vient de dire ici, c'est plus un cas financier. C'est un cas physique, il y a une souffrance physique. Donc même si tu m'as dit que dans tout ce qui est perte financière, je passe toujours avant, mais peut-être que lorsqu'il y a une perte physique, je ne sais pas, peut-être les règles changent. Et on verra dans la Gemara tout ça. D'accord, on a encore besoin d'attacher un daf entier de Gemara, dans lequel on verra tous ces détails. Ouais. Donc,
Boker Tov,
Boker Tov,
revenez.
Oui, d'accord, on verra ça après, Khazak. Ça t'encourage. Il a peur que son fils, il va lui...
je pense à mon père, je pense pas à mon
plus sûr.
Tu penses à ton père ou à ton fils?
À mon père.
Bon. Donc, va
Harkar. Si le père
il paye
le Sarlimoud,
alors le père passe avant.
C'est la question que je t'ai posée tout à l'heure.
Est-ce qu'il paye? Est-ce que le
je te dis le père, je te dis le père il envoie son fils au Cheder. Il envoie son fils à l'école juive.
Donc c'est son chalière. Donc c'est
on va voir. Lui vous a déjà donné la réponse. On va voir. On va aller développer la réponse.
Brut, on peut la contester.
Les amener, c'est considéré comme un Cheder ou pas?
Les écoles, ils ont des études juives, non? Ton fils, il sait ce que c'est pour Rim. Alors. Et ça veut dire qu'un donateur, il passe avant alors?
Il est pas dans le coup, c'est pas mon père.
Donc on a dit que si son père et son maître portaient une charge, on décharge d'abord son maître, et après on décharge, d'accord? Et après on décharge son père. Ensuite, d'accord? On a un troisième cas dans la Mishnah. Aya aviv verabo bebet hachevi. Donc là maintenant c'est plus une souffrance, c'est plus une perte financière, c'est plus une souffrance physique, d'accord? Mais là c'est carrément un danger. Il y a un danger, ils sont en prison, d'accord? On sait ce qui se passait dans les prisons de l'époque. Ça veut dire qu'il faut le faire sortir le plus vite possible, on ne sait pas ce qui peut se passer dans la prison. Donc Aya vive Verabo Bebet Hachevi. Si son père et son maître se trouvaient Bebet Hachevi dans un. Ils sont pris en captivité. Et il faut aller ramasser de l'argent pour les libérer. Et déjà ramasser de l'argent pour un, c'est dur. Pour deux, à plus forte raison. Dans ce cas-là, lequel il passe en premier, Podet Rabo, vers Harkar, Podet Avi. Tout d'abord, il va racheter son maître, et après il va racheter son père.
Sous-entendu, si je n'ai pas assez d'argent, c'est pas grave.
Voilà.
C'est ça que ça veut dire.
C'est pas sous-entendu, c'est clair.
Si je vais vers Harkar.
Vers Harkar, bah, s'il reste de l'argent. S'il reste pas.
S'il reste de l'argent.
Bah, c'est sûr, c'est évident. Mais il va vivre Raham. D'accord, si maintenant son père est Raham, même s'il n'est pas Raham comme son maître, comme on a expliqué, Podet Aviv, vers Harkar, Podet Rabo.
Vaut mieux étudier, ça veut dire.
D'accord. Dans ce cas-là, il rachète son père, d'accord, et après, il rachète son maître. Alors, vous avez remarqué que dans le premier cas de la Mishnah, dans le cas de la perte, on a ramené donc cette nuance, on a dit que si son père était Raham, son père passe avant. Dans le troisième cas, on a aussi ramené cette nuance, mais dans le deuxième cas, on l'a pas ramené. Donc, c'est pour ça qu'il y a une grande marloquette dans les Mefarshim. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où son père et son maître portaient une charge, vous avez décidé à décharger. Est-ce que le père y passe avant ou le maître y passe avant? Tout à l'heure, je vous ai donné l'avis du Ritbaz. L'avis du Ritbaz qui lui dit, d'après moi, ce cas-là, on la prend ou du premier ou du troisième. Le Meiri, il n'est pas d'accord.
C'est le contraire.
D'accord,
c'est
le Meiri, il n'est pas d'accord. Le Meiri dit, si la Mishnah ne l'a pas dit, c'est qu'elle pense le contraire.
Voilà, c'est ça.
Donc c'est une marloquette. Une marloquette dans les décisionnaires autour de cette Mishnah.
Quand on dit que le père est un érudit, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Est-ce qu'on veut dire qu'il enseigne au fils?
Non.
Ou est-ce qu'on veut dire qu'il est un érudit?
On a dit les chacham, mais comme le commentaire explique, on considère que s'il est chacham, c'est pas possible qu'il a rien enseigné à son fils.
D'accord, mais s'il enseigne peu.
Ah.
Par rapport au maître qu'enseigne.
C'est la même question qu'on a posée tout à l'heure. C'est quoi un maître aussi?
Oui.
C'est une question générale. Oui. C'est quoi un maître? C'est quoi un chacham? Pour l'instant, on n'a pas défini tout ça. C'est une marloquette dans la Gemara. Donc déjà, la Gemara va décortiquer la première chose. On a dit que mon argent passe toujours avant l'argent des autres. Tu m'as dit, mon rabbin, il passe avant mon père, mais mon argent, il passe avant tout le monde. Mon rabbin, mon père, j'écrase tout le monde. C'est mon argent, ça passe avant.
Avant l'argent des D'accord. autres, tu veux dire.
Avant l'argent des autres.
Oui, pas avant tout le monde.
Avant l'argent de qui que ce soit. C'est ce qu'on a dit, avant, ça passe avant. Pourtant, mon argent, je veux dire, c'est le monde, pas le monde futur. Mm-hmm. Je dis là, mon argent, il passe toujours avant. Pourquoi? Donc, Marie a dit, Mina, Némilé, d'où tu sais. D'accord. Pourquoi, dès qu'il s'agit d'argent, tout de suite, tu fais passer avant? C'est pas logique. On dit Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Rav Yehuda dit nom de Rav. On a déjà vu cette phrase-là dans la Gemara quelques d'abîmes plus tôt. On dit, c'est écrit Amar Kral, le pasouk a dit Efes kilo yevecha evion. Alors prenez le pasouk. Efes kilo yevecha evion. Prenez dans le côté Gemara là.
Il y en a bien
numéro de la lettre. Attendez. D'abord on lit le pasouk. Doucement. Pasouk d'Alet. Prenez le pasouk d'Alet. Vous avez le pasouk d'Alet dans le côté de la page? C'est un passouk qu'on avait l'obligation de dire quand on amenait les bikourim, quand on amenait les prémices au Beit HaMikdash. On avait l'obligation donc de donner les prémices. Il y avait tout un récital qu'on devait dire. Et après ce récital, le Kohen y récitait quelque chose. Et le Kohen disait qu'il donnait la bracha qu'il n'y aura pas de pauvre chez nous. Alors, je vous lis le passouk, numéro d'Alet. Tu as le numéro d'Alet?
Ah d'accord.
Tu suis en français ou en hébreu?
En hébreu?
Enfin, en araméen. Ephès, ici. Ephès, qui loye vecha Evion, afin qu'il n'y aura pas chez toi de pauvres, donc tu devras faire tout ton possible pour qu'il n'y ait pas chez toi de Evion, de pauvres. Enfin, c'est plus qu'un pauvre Evion, c'est quelqu'un qui n'a vraiment. Evion, Rachid explique là-bas, il dit Evion, ça vient du mot Taev. La différence entre un pauvre, entre Annie et Evion, Annie, c'est quelqu'un qui est pauvre, d'accord, mais que bon, il sait ce qu'il va manger ce soir. Il sait pas ce qu'il va manger demain, mais il sait ce qu'il va manger ce soir. On dit que le Evion, c'est celui qui n'a pas encore mangé depuis ce matin, qui ne sait pas ce qu'il va manger ce soir. À tel point que c'est pas ce qu'il va manger, c'est que chaque fois qu'il passe à quelqu'un qui a de la nourriture, Taev, il le dévore des yeux. Taev, c'est comme Taava, ça veut dire il le dévore des yeux. Ça, c'est un Evion. Donc le verset dit que tu dois faire tout ton possible afin qu'il n'y ait pas chez toi de Evion. Kivarech, yivarecha Hashem, Hashem, parce que Dieu va te bénir. Ba'aret, asher Hashem, elokecha, notenecha, dans la terre que Dieu t'a donnée, nachala en héritage, d'accord, l'héritage, afin que tu puisses l'hériter et donc tu puisses t'en servir. Donc c'est un verset qu'on dit encore une fois quand on amène les bikurim, les prémices de la terre. Et là-bas, le Kohen donne une bracha, que Bezrat Hashem, on n'aura pas de pauvres chez soi. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? On revient à la Gemara maintenant. Qu'est-ce qu'il dit Rav Yehuda à Marav? Rav Yehuda dit au nom de Rav, il dit, le verset a dit, Ephes, qui lo yevecha evion, afin qu'il n'y aura pas chez toi de pauvres. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, on nous dit qu'il va être, parce que Kadosh Baruch Hu va te bénir. Ça veut dire quoi, Ephes? Ephes nous dit ici, Éphèse, ça peut se traduire de deux manières. D'accord ? Éphèse, ça peut se traduire. Éphèse, ça veut dire afin qu'il n'y aura pas de pauvre chez toi. Dans ce cas-là, afin, bon, afin, ça veut dire que je ne dois rien faire de spécial. Je dois rien faire de spécial. Moi, j'amène les bikourim. Il y en a qui disent que ce verset, il parle aussi de la Shemitah. D'accord ? Ce verset, hein, il fait mention aussi à la Shemitah. Vous savez, la septième année, on avait l'obligation de. La septième année, on a l'obligation d'effacer toutes les dettes. On appelle la Shemitah de Ksafim. La Shemitah de l'argent. D'accord ? Et donc, encore une fois, là-bas, le verset, il dit « Ephes kilo yevchev yod » afin qu'il n'y aura pas chez toi de pauvres. Alors, c'est quoi Ephes ? Afin, ça veut quoi afin ? Est-ce que je dois faire quelque chose pour qu'il n'y ait pas de pauvres ? Qu'est-ce qu'il explique Rav Yehuda, nom de Rav ? Rav Yehuda, il dit, quand on dit « Ephes afin », ça veut dire que tu dois faire tout ton possible pour qu'il n'y ait pas de pauvreté chez toi. Ça veut dire que tu dois faire tout ton possible pour être près de tes sous. Faut pas devenir pauvre. D'accord ? C'est ce qu'il dit ici. Et il expliquerait, d'accord ? Que c'est la raison pour laquelle on nous demande de s'investir dans les bikourim par exemple, c'est la raison aussi pour laquelle on nous demande de s'investir, et on te dit que dès qu'arrive la septième année, tu dois récupérer tes sous. D'accord ? Ah mais je ne veux pas récupérer mes sous, tu dois récupérer tes sous, parce que il ne faut pas que tu arrives à un statut que toi tu deviennes pauvre. Et fais ce qu'il y ait, afin que tu dois faire tout ton possible afin qu'il n'y aura pas de pauvres. Donc de là on a appris que quoi ? De ce passage qu'on a appris que on doit faire attention pour qu'on n'a pas de pauvres chez nous, donc de là on apprend Shelcha Kodem, le Shel Kol Adam. Que ma perte. Mon argent, ma perte, passe toujours avant la perte d'une autre personne. Pourquoi ? Parce que si je vais perdre mon argent, eh ben, même si je vais faire gagner de l'argent à quelqu'un d'autre, je vais perdre mon argent, eh ben, mon argent passe avant. Ve'amar, Rav Yehuda, Amar Rav. Et c'est pas seulement ça. Rav Yehuda est du nom de Rav, quelque chose de très dur, il a dit. D'accord ? Dit que bien que Minadine, on vient de dire que mon argent passe toujours avant l'argent des autres, il a dit que il faut pas être trop marmire sur cette halakha. C'est-à-dire, c'est pas que dès que quelqu'un te demande de donner la tzedaka ou dès que quelqu'un te demande de lui rendre un service, il dit « Ah, je perds de l'argent, alors c'est fini, je l'aide pas ». Rav Yehuda, il va dire au nom de Rav que ce principe-là, il faut l'appliquer seulement si on est sûr qu'on va perdre vraiment de l'argent. Mais sinon, il faut pas trop être regardant sur ça. Pourquoi ? Parce qu'il dit « Amekayem atzmokach » Tout celui qui s'arrange pour toujours accomplir ce principe en soi, ça veut dire, il dit, mon argent passe toujours avant l'argent de... D'accord ? Mon argent passe toujours avant l'argent des autres, sauf Balidekar, il finira par devenir lui-même pauvre. Ça, il dit Rav Yehuda au nom de Rav. Donc ce même Rav Yehuda au nom de Rav, qui a appris du pasuk de la Torah, Ephes Kiloye Bechayevion, qu'il faut tout faire, il faut faire tout ce qui est dans son possible pour ne pas devenir pauvre, ce même Rav Yehuda au nom de Rav, il a dit, il ne faut pas être trop marmure sur cette halakha, d'accord ? Faut pas être trop marmire sur cette halakha, parce que sinon après Dieu préserve, on peut devenir ce même pauvre. D'où il tire ça Rav Yehuda Nondorav. Alors c'est écrit dans le Mefarchim qui tire ça d'un verset dans Michelet. Il y a un verset dans Michelet qui dit Megurat Racha Yevo Enu. Il dit que lorsqu'un Racha a trop peur, et ben finalement ce qu'il a peur lui viendra. Donc là on a bien compris c'est quoi, de quoi il a peur. Il a peur de perdre son argent. Quand il a trop peur de perdre son argent, et ben finalement, il perdra vraiment son argent.
C'est l'avare de Molière.
Comment dis-tu quoi là ?
L'avare de Molière, c'est ça ?
Je connais pas.
C'est tout le compte. Mais non, il est tellement... Il perd sa cassette.
Je sais pas. Bon. Alors, Oui. D'accord ? Et le Marsha, hein, le commentaire du Marsha, hein, vous l'avez pas ici dans la Gemara, si tu... On a pas de Gemara là-bas. Le commentaire du Marsha nous ramène à la chose suivante. Il dit que celui que lorsque son père... va perdre lorsque son père par exemple l'appelle voilà, par exemple, pour réparer sa voiture et qu'il dit non j'ai pas de temps je suis au travail et qu'il dit papa je peux pas parce que c'est écrit Ephes Kiloye Bechayevion.
C'est du vécu ça,
d'accord,
c'est du
derrière. Vous avez dit le Marsha Ephes Kiloye Bechayevion afin qu'il n'y aura pas de pauvres, donc je veux pas devenir pauvre. Le Marsha il dit une personne qui parle comme ça à son père il finira par devenir pauvre.
Oui, parce qu'il en est peut-être pas.
Ça veut dire que non, que tout d'abord deux points. Tout d'abord il faut s'assurer qu'il y a vraiment une perte d'argent. C'est très bien que c'est pas, des fois c'est pas une demi-heure, une heure qui va faire perdre vraiment de l'argent, vadaï, ça c'est premièrement. Et deuxièmement, même si tu dois le faire, arrange-toi pour que ça se passe discrètement et que t'aies pas besoin de balancer la figure de ton père, tu dis, fais ce qu'il a eu, je vais pas devenir pauvre à cause de toi. Il dit, celui qui manque de respect comme ça à son père, du président, finira par devenir pauvre. Voilà, c'est dit le marché. Bien que le principe existe.
Oui, mais je pense qu'il parle d'un cas précis où vraiment la perte elle est évidente, tu vois.
Là, ici, oui, c'est ce qu'on a dit. D'accord ? Il a dit que ça, c'est ce qu'il a dit Rav Yehuda. Rav Yehuda a dit que c'est uniquement dans un cas où la perte, où on est sûr qu'il va perdre de l'argent.
Et d'accord, encore, quand il parle du pauvre, on est bien d'accord. C'est celui qui n'a pas mangé le matin et qui ne sait pas ce qu'il va manger le soir. Non, c'est quand même un cas.
Non, on dit afin que tu n'arrives pas à ça.
Oui.
Donc non, ça veut dire que, justement, le Shulchan Aruch, il dit qu'il appelle ça Efsed Mouchar. c'est dur à expliquer, ça, Efsed Mouchar. Efsed Mouchar, ça veut dire une perte prouvée.
C'est ça.
C'est-à-dire que tu peux prouver que tu vas perdre l'argent. C'est pas que, bon, si je vais quitter le magasin, alors peut-être un client ne viendra pas, et si un client ne viendra pas, alors peut-être je vais perdre l'argent. C'est pas Mouchar à 100%, ça.
C'est besoin de perdre l'argent. Tu as rendez-vous avec ton client, mettons, à 15h, et ton père t'appelle à 15h-5, et si jamais tu vas, tu perds tes clients parce qu'il ne pourra pas revenir. Là, c'est sûr que c'est une perte.
C'est sûr qu'il perd.
Si tu te dis, et si
attends, deux secondes. Est-ce que tu es sûr que le client se serait traduit en...
Oui, parce que la commande n'était pas sur le téléphone, il venait juste pour signer le papier.
C'est compliqué. Je vous dis honnêtement, c'est compliqué. Parce que quand on dit Efsed Mouchar, c'est-à-dire que je suis capable de prouver que je vais perdre l'argent, c'est très très dur de dire je vais prouver que je vais perdre l'argent.
Si la perte, elle est sûre vis-à-vis de son père. C'est-à-dire son père, il lui dit, voilà, je suis dans une mauvaise position. Donne-moi 1000 euros.
Ah oui, mais il a perdu, là, bien sûr, sur le fond de la mer. C'est la même chose. Hein. Il a perdu. On sait qu'il a perdu.
Non, là, c'est-à-dire, le père, il demande au fils. Et donc, c'est l'argent qu'il va perdre.
Non, attention, non, on ne parle pas la même chose. Là, on parle que le père a perdu de l'argent et que le fils peut l'aider à le retrouver.
Ouais.
Par exemple, il a fait tomber de l'argent au fond de la mer. Mmh. C'est l'argent qui appartient au père.
Ouais.
D'accord ? Là, vous parlez d'un autre cas.
Non, là, on est en train de dire, quand c'est son argent, donc il a la priorité sur son argent.
Oui.
Maintenant, si son père il lui demande de lui donner de l'argent, et que lui, donc c'est l'argent qui va...
C'est une autre histoire, ça. C'est autre chose.
Mais on ne parle pas de ça.
On a l'obligation de traiter.
Something else.
Mais de donner, à ce moment-là.
C'est pas donner, c'est écrit qu'on a l'obligation de traiter. C'est écrit quand quelqu'un te demande de l'argent et que tu as de l'argent, il ne faut pas refuser.
Non, mais je parle dans le cas de donner. Son père il lui demande, non, qu'est-ce qu'il doit faire, lui ?
Il a de l'argent, il a de quoi le payer ?
Non, il a de quoi lui donner, mais quand il va lui donner, il va s'appauvrir. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire ?
Je sais pas. On dit qu'il a, il faut donner, c'est évident. Mais là, c'est pas le cas qu'on parle ici, là. Là, on parle d'un autre cas. Là, on parle d'une perte. C'est-à-dire, on parle qu'il a perdu de l'argent. On parle d'un cas que mon père a perdu de l'argent et que moi aussi, je vais perdre de l'argent. C'est-à-dire, c'est le business de mon père contre mon business, en d'autres termes. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est un autre cas, là. Parce que votre cas, là, dans le cas que vous êtes en train de me dire, le père, il est dans une position de faiblesse. Donc, c'est sûr que je dois tout faire pour l'aider. C'est autre chose. Là, on parle dans un cas où mon père me demande un service et que c'est soit son business, soit mon business. Soit l'un, soit l'autre. Lequel il passe avant. C'est trop, je ne sais pas que les autres la
même
chose.
Même principe, parce qu'il doit aussi
parler. Parce que, attention, on n'a pas dit ici. Je vais expliquer un peu mieux ce que je veux dire.
Ouais.
Ça y est, c'est fini ? Oui. Ah, je ne sais pas. On voit Bella, si tu veux. Je ne peux pas voir. Je ne sais pas. Désolé. Il les a mis où ?
Ah.
Vous voulez voir, M. Bismuth, ça ne vous dérange pas ?
Il
doit être là-bas. Un gros sac.
Oui, il y a quoi dedans ?
Vous ne servez pas.
Voilà, il n'y a pas de perte d'argent, tu peux y aller.
Donc, il faut bien que je voudrais rajouter encore un autre point. Quand le Mefarchim parle, parce qu'il y a beaucoup de Mefarchim chez Gmara, c'est beaucoup de détails, hein, je ne peux pas trop développer, mais un autre point que le Mefarchim parle. Est-ce qu'on parle ici d'un cas où le père risque de perdre son affaire, ou simplement il va perdre l'argent ? Est-ce que le père va devenir pauvre suite à cette perte d'argent ?
Pas forcément.
Comment vous avez compris ? Comment tu as compris ?
Super.
C'est une perte. D'accord ? Ça veut dire qu'on ne parle pas forcément ici. On parle pas forcément ici d'un cas où le père va devenir pauvre suite à ça. C'est un autre cas, ça. Là, on parle, c'est mon business contre le business de mon père, lequel il passe avant. Et moi, on te dit, c'est ton business qui passe avant. Il passe avant le business de ton père, avant le business de ton maître, ça passe avant tout. D'accord ? Alors.
Là, on parle que du père et du maître, mais ça peut être ton ami aussi.
Sans raison.
À plus forte raison.
Bien sûr.
Mais d'accord, mais mettons, tu
parce que parce que sur le parce que mon père j'ai une obligation de kibboud avahem.
Oui.
Mon maître aussi j'ai une obligation de respecter mon maître. Donc la plupart d'argent sur son ami, c'est sûr ça.
Oui, non mais justement, mais comme tu dis que il faut.
Allez, accélérez s'il vous plaît.
Et comme tu dis qu'il faut tempérer. Et que donc celui qui applique ce principe,
oui.
Finalement il deviendra lui-même propre.
Ouais, je dis que Shulchan Aruch dit Efsed Mouchar.
Alors, non, mais nous, la question qui se pose, c'est souvent que c'est envers quelqu'un qu'on connaît, envers un ami, plus souvent que le père ou le maître.
Oui.
Donc, si ce cas arrive pour un ami, on va dire, ou quelqu'un de ta famille, on va dire,
j'aurai un service.
Est-ce que tu appliques le principe sans trop être trop marmire là-dessus ou pas ?
Excuse-moi, je peux pousser ce principe très loin. Par exemple, quelqu'un il me demande un service le soir. Je vais aller lui rendre un service. Je vais dormir plus tard. Si je vais dormir plus tard, je serai moins productif le lendemain.
Oui.
Donc, j'ai perdu de l'argent.
Oui. Mais pas pour devenir pauvre.
Voilà, non, c'est pas ça ce que l'on est en train de te dire. J'ai pas dit ça. J'ai dit, la Torah te dit de tout faire ton possible afin qu'il faut tout faire pour ne pas éviter du plaisir de perdre de l'argent. D'accord ? Mais on peut aller très très loin avec ce principe. Dans ce cas, tu ne rends jamais service à personne.
Oui, c'est pour ça.
Alors c'est pour ça que Rabbi Yehuda Hillel Dorav, que ce principe on l'applique seulement quand il y a une perte sûre.
Sûre.
Est-ce que c'est une perture si je vais me coucher à 1h du matin?
Non, c'est pas une perture. Je
n'aurai pas besoin de ma vigilance
non.
totale.
Non, c'est avec cette vadaille. Cette vadaille.
Parce que des fois, tu peux gagner.
En général, il ne faut pas être trop voyant sur ces choses-là. Bon, on continue. Bon,
ça, c'est
d'accord.
C'est fini. C'est pas rien.
On continue. Ah, quand on réfléchit bien, on voit que c'est compliqué, cette alakha. Alors, Aya, vive Verabon aussi, Massoy. Vous avez la suite? Dans la Michelin, on a dit que si son père et son maître portaient une charge, qu'est-ce qu'on a dit? Je laisse la charge de...
Je décharge d'abord la charge de...
De
mon maître.
De mon maître, après j'ai charge celle de mon père.
Si c'est un racham.
Non.
Si. Marloquette.
Marloquette. C'est sur la deuxième?
Ouais. Ouais. Ah, oui. Ridbaz Meiri. Tu retrouves tes classiques ou pas?
Oui, bien sûr, bon. Mais Ridbaz, moi je l'ai dit, Ridbaz.
Et vous l'avez mis, il y a une liste
ou pas? Non, mais les gens ne notent pas quand je...
Tu me l'as dit dans le Gan Eden. Je ne me rappelle plus.
Mais non, c'est pas la
peine. Bon, ouais, voilà. Ouais.
De revendiquer.
Ouais.
Alors, Edita Nouraban, le Rahami m'a enseigné la big question. Quand tu me parles d'un maître, c'est quoi un maître? Oui. D'accord. C'est quoi le maître?
Un master.
C'est quoi le maître? Il m'a pris quoi? D'accord. Edita Nouraban, le Rahami m'a enseigné dans une braïta. Rab Oshé Amrou, le maître qu'on a dit dans la Mishnah qui passe avant son père. De quel maître on parle? Rab Oshé Limdo Chorma. C'est son maître qui lui a appris à réfléchir. D'accord? C'est-à-dire, c'est le maître qui m'a appris à réfléchir, qui m'a appris mon mode de pensée. Qui m'a appris de la Gemara, par exemple. C'est-à-dire, qui m'a appris à réfléchir, mais il a formé mon esprit. Mais, Velo Rabo Shelim de Mikra. C'est pas son maître qui m'a appris, c'est pas mon maître qui m'a appris à lire le Chumash. D'accord? Mishnah. Ou Mishnah. Et ainsi, c'est ni mon maître qui m'a appris la Mishnah, c'est-à-dire les dinim, sans les raisons. Par exemple, la Halakha. D'accord, un cours de halakha, on apprend la halakha, on n'apprend pas les raisons. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Meir, du vrai Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Meir? Rabbi Meir nous dit, d'après moi, qu'est-ce qui est considéré un maître? Un maître, c'est celui qui a formé ton esprit. Vous savez, Rabbi Meir, toujours, on a l'habitude dans la Gemara, toujours Rabbi Meir, il voit la profondeur des choses. Il dit, d'après moi, un maître, c'est celui qui t'a appris à réfléchir, celui qui t'a appris à devenir autonome. D'accord? Donc d'après Rabbi Meir, il dit, dans ce cas-là, tu peux appeler Rav une autre personne si tu veux, mais c'est pas ton Rav. C'est pas mon Rav, c'est comme mon Rav, celui qui m'a appris à réfléchir. Celui qui m'a pas appris à réfléchir, c'est pas mon Rav.
Qui m'a donné l'outil.
Non, forcément, il y en a qui n'ont pas, quoi, de Rav.
Il y a bien une personne qui l'a appris à réfléchir, à moins qu'il n'ait jamais réfléchi de sa vie.
Non, mais il peut réfléchir tout seul, il se fait lui-même ses idées.
Mais on ne sait jamais.
Il a appris à réfléchir, il a appris à étudier la Gemara.
C'est pas la Gemara, c'est la vie.
C'est la vie.
Donc il n'y a pas de Rav à partir ça peut être de la vie. Il y a un Rav qu'à partir de 15 ans. Quoi. À partir de.
C'est ça? Non, pourquoi? Moi j'ai appris la Gemara depuis 8 ans. Il m'a appris à réfléchir. La Rabosh Nido Chokhma qui m'a appris à réfléchir. Et là ça se corse un petit peu parce que nos parents nous apprennent à réfléchir aussi. D'accord? Même si nos parents, des fois, même si des fois quelqu'un et son père n'est pas érudit, mais il peut t'aider des fois à réfléchir à quelque chose de Torah. C'est bon, ça va se corser un petit peu. En tout cas, selon Rabbi Meir, d'accord, c'est pas le maître qui m'a appris les textes, c'est le maître qui m'a appris à réfléchir. C'est ce qu'on apprend à un maître. Ça va se compliquer encore plus après dans la suite, parce que un maître, on peut considérer aussi quelqu'un qui m'a appris un métier. Il m'a appris l'informatique, par exemple. Il m'a appris quelque chose, je lui dois un respect pour ça. Alors, pour l'instant, la vie de Rabbi Meir, il dit que Rabosh est l'imdo Chokhma. On parle uniquement de son maître qui lui a appris à réfléchir dans la Torah. Mais tout le reste, celui qui m'a appris à lire le Chumash, celui qui m'a appris les halakha, etc., je dois le respecter, mais il passe pas avant mon père. D'accord? C'est bien sûr, si je peux l'aider, je l'aide, mais il passe pas avant mon père. C'est la vie de Rabbi Meir. Rabbi Udomer, Rabbi Uda, il a marqué l'enquête sur ça, il dit non. Il dit, Kol Shirov Chochmato Emenu, d'accord? Il dit, si... D'accord, la majorité, donc, qu'est-ce qu'on considère comme un rav? Rav, ça vient du mot rov. Rov, ça veut dire la majorité, d'accord? Donc on parle de la personne qui t'a appris la majorité de ta sagesse.
Voilà.
D'accord? Oui. Même si la majorité de ta sagesse, c'est de la Mishnah, eh ben, si t'as appris la majorité de ta sagesse, Oui,
c'est sûr. Parce que là, l'air de rien,
c'est pas qu'un jeu de mots, c'est aussi logique. Lui, tu dis, d'après moi, c'est quoi mon rav? Celui qui m'a appris, c'est plus de la qualité, c'est de la quantité. D'après premier avis, Rabbi Meir, d'après premier avis, en fait, c'est une marque location entre la quantité et la qualité.
Oui,
Rabbi Meir, il dit que c'est la qualité, celui qui m'a appris à réfléchir.
Oui.
Ça, c'est le mot Rav. Ça, c'est Rabbi Meir. Deuxième avis qui est ici, qui est Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit non. Il dit, c'est pas ça un Rav. Un Rav, celui qui t'a appris la majorité, la quantité et la majorité de ta sagesse. C'est une grande marque location dans la Gemara, dans d'autres endroits. Hein. Est-ce qu'il faut privilégier la quantité ou la qualité?
Oui, excusez-moi, ça peut être la seconde.
Je pas fini. Il y en a qui disent qu'il faut privilégier toujours la qualité. D'accord, ça veut dire qu'il faut chercher même à faire peu, et le peu, il sera bien. Et il y en a qui disent qu'il faut privilégier la quantité, puisque la quantité finira par amener la qualité. Parce que quand, par exemple, on voit la même chose ici, et tu le revois la même chose dans une autre Gemara sous une autre forme, même si tu as passé rapidement, mais avec le temps, ça va former ton esprit. Donc là, on voit clairement, c'est une différence de vision claire entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, il préfère la qualité. Il dit, mon maître, c'est quoi mon maître? C'est celui qui m'a appris à réfléchir. Rabbi Yehuda, il dit non. Il dit, mon maître, c'est celui qui m'a donné la majorité de ma sagesse. Donc, c'est celui qui m'a donné la plus grande quantité de sagesse. Là, c'est un deuxième avis. Troisième avis, Rabbi Yossé, qui est en marloquette, qui dit non. Il dit, un raf, c'est quelqu'un qui m'a appris quelque chose. Donc, à filou, lohir et enav, et la bemishnah hat, il dit, même si un raf, c'est quoi un raf? Même si une personne m'a éclairé les yeux seulement sur une mishnah, ça veut dire que, par exemple, j'étais bloqué sur quelque chose et il m'a débloqué. Donc, ça peut être des fois un élève qui a aidé son maître. D'accord? D'accord.
Oui. Ça peut être son père,
ça peut être n'importe qui.
Lui, il est plus du côté du père.
Donc non, là, il n'est pas dans le père. Il dit, c'est quoi un maître? Il dit, c'est quelqu'un qui t'a éclairé les yeux un jour sur une mishnah. D'accord. Parce que bon, le mikra, quand on parlait du mikra avant, le mikra, c'est apprendre à lire le chumash. Apprendre à lire la Torah, avec les talmim, tout ça. D'accord. Ça, c'est autre chose. Là, il te dit, même si t'a éclairé les yeux sur une mishnah, par exemple, j'étais bloqué sur quelque chose, et quelqu'un m'a aidé, mais tu regardes, je pense que c'est ça. D'accord. Même s'il m'a éclairé les yeux sur une mishnah, il y avait un dîme que je ne connaissais pas. Dans ce cas-là, Zéou Rabo, c'est son maître. Donc là, bien entendu, certainement qu'il fait appel à la Mishnah qu'on a vue dans Pirkei Avot, qui dit que David a appris de Achitophel une seule chose, d'accord, et,
Monsieur Bismuth.
Et on voit qu'après, le roi David, c'était pas un menteur, c'est pas quelqu'un qui faisait ça pour faire du guitménique, il disait vraiment sincèrement, il disait, Krao Rabo Alufo Umudao, il disait à Shavot, c'est mon maître, il m'a appris quelque chose. Il lui a appris. D'accord. Il lui a appris une seule chose et pourtant.
Enfin, dans la Gemara, on n'a pas l'impression qu'il a appris une seule chose. Hein.
Quoi?
Dans la Gemara, je suis
désolé. Il a appris deux choses. Achitophel a appris deux choses à David. Deux halakhot. C'est bon. Tout. C'est même pas des halakhot, c'était des halakhot de bon sens.
Et après, il a trahi. D'accord. Peut-être.
Ouais. C'est même pas des halakhot, hein. Parce que Achitophel, il n'a pas utilisé la halakha. Il n'a pas dit, j'ai entendu une fois que la halakha était comme ça. Achitophel.
C'est peut-être la différence entre Rabbi Yehuda et l'autre Rabbi.
Oui.
Parce qu'avec ces deux choses...
Et Rabbi Yossi
Non, avec ces deux choses...
La différence entre qui et qui?
Les deux premiers. Avec ces deux choses, Rabbi Tophel aurait pu lui apprendre toute sa chokhma.
Dans les deux premiers?
Oui. Non, oui.
Dans le premier, peut-être.
Avec ces deux choses, non.
C'est déjà pas mal.
Non, deux secondes. Non. On va reprendre un par un. Le premier, c'est celui qui m'a appris à réfléchir.
Oui. Donc la qualité. Avec ces deux choses.
Donc ça, Rabbi Tophel, il peut m'apprendre à réfléchir.
Avec ces deux choses.
D'accord.
Tu es d'accord?
Bien que les Mefarshim me disent que Rabo chez l'Imdo Chochma, ça veut dire, on parle qu'il m'a appris la Gemara, par exemple. Ça veut dire, il m'a appris à analyser un texte de Torah.
Oui, mais...
Donc c'est pas exactement Rabbi Tophel.
Non, mais avec ce Chidouche, oui. avec un Chidouche, une seule chose, deux choses, puisque a priori pour le roi David, c'était un Chidouche qui lui a appris.
Oui, c'est un Chidouche, mais selon Rabbi Meir, Rabo chez l'Imdo Chochma, ça veut dire mon maître qui m'a appris à réfléchir. Qui m'a appris à réfléchir, ça veut dire à analyser la Torah. C'est pas exactement Rabbi Tophel, ça. Pas juste quelqu'un qui m'a donné un principe de vie. On parle vraiment quelqu'un qui m'a appris à réfléchir. Et mes farchim me disent que Rabo Shelim de Chochma, on parle de la Gemara par exemple. Donc il m'a appris à décortiquer quelque chose. Là, c'est Rabo Shelim de Chochma.
Bon.
Donc c'est la qualité. D'accord. Achitophel, c'est un peu juste. Rabbi Yehuda, il dit non, c'est la qualité, c'est la quantité. D'accord. Et Rabbi aussi, c'est carrément autre chose. Rabbi aussi, tu dis, si tu as éclairé les yeux, ne serait-ce que sur une Mishnah. Donc c'est ni quantité ni qualité. Si tu as éclairé les yeux sur une Mishnah, c'est considéré ton Rav.
D'accord, donc ça veut dire qu'on peut avoir 50 Rav alors.
Oui.
D'accord.
Non, non.
Ah bah oui.
Alors, c'est pas la question. En seconde. La question ici, c'est qu'on a dit Rabo, mon maître.
Alors.
Des fois, les gens disent mon rave. Pourquoi tu l'appelles mon rave? Qu'est-ce qui t'a appris? Qu'est-ce qui t'a appris?
Mais attends, tu m'as dit que si t'as appris une seule chose. Il y avait plein de choses qui.
C'est Rabbi aussi. C'est Rabbi aussi. En général, aujourd'hui, on dit que celui qui a ramené quelqu'un Bitchouva, le considère son rave. Comme ça, on dit aujourd'hui.
D'accord. Donc celui qui s'est ramené tout seul Bitchouva, c'est lui-même le rave.
Non. Dans ce cas-là, peut-être. Mais quand il est ramené Bitchouva, il y a des gens qui l'ont aidé.
D'accord. Et s'il y en a eu plusieurs.
C'est où la quantité ou la qualité? C'est la vie de Rabbi Yossi en général, bon, c'est un niveau de l'appliquer.
Je ne comprends pas pourquoi tu dis la quantité ou la qualité. Dans les deux cas, il n'y en a qu'un. Dans les deux premiers, il n'y en a qu'un. Le Rav de sa Chochma, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un seul Rav qui a la majorité de sa sagesse.
Le Rav de sa Chochma, ça veut dire, même s'il m'a pris par exemple, même si la seule chose que je connais dans ma vie, c'est du Chumash, et que c'est un Rav qui m'a pris du Chumash.
Ah, on appelle le Chumash, on appelle ça Chochma.
Oui.
On parle pas de
Rav Chochmato. Ma chorma. Donc ça veut dire, comme tu verras certainement, ils doivent le dire, ils ont les notes à côté, hein, tu reparles en français. Même si cette chorma, c'est de la Mishnah, ou
chose,
de... peu importe. D'accord. A priori, on verra après, juste après, on va parler d'un métier. On n'a pas encore parlé du métier.
Non, mais le problème, il peut se poser, par exemple, si tu as le problème avec deux raves, c'est-à-dire, il y a deux raves qui sont devant toi, ils ont une charge sur le dos, il y en a un qui t'a appris de la quantité, l'autre qui t'a appris de la qualité, un t'a appris beaucoup de quantité et un peu de qualité, et l'autre beaucoup de qualité et un peu de quantité. Et l'autre, il t'a appris une seule chose, mais quand même, il t'a appris.
Qu'est-ce qu'il fait maintenant?
C'est pas le cas de la Mishnah.
Ton préféré.
Non, c'est pas ce que je veux dire.
Je sais pas.
Ton préféré.
Oui.
C'était un cas comme ça?
Oui, oui.
Celui qui était chaviv.
T'en as qui t'apprennent la qualité, d'autres qui t'apprennent la quantité?
Bien sûr. Il y en a qui m'apprennent un peu de quantité et beaucoup de qualité, et d'autres beaucoup de
t'es capable d'analyser tout ça?
Ça veut dire que t'es devenu une abeille,
c'est
alors.
Évident.
Tu viens pas à la même fleur tout le
c'est
temps.
Évident que chacun
est un peu partout.
Chacun est différent, tu fais pas les mêmes matières avec tout le monde, etc. etc.
Ah, attention, c'est une autre question, ça. C'est plus une question de quantité de qualité, c'est une question de matière.
Mais la
Moi, je ferais passer avant la matière de la profondeur de la Torah. Moi, tu me poses la question à moi.
Parce qu'elle débouche,
par exemple. La profondeur de la Torah. Bon, Amar Rava. Je pense que tu es pas bête, tu vas comprendre rapidement. Amar Rava, Rava dit. Donc il dit comme ça, il a dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav va dire un chose suivant, il dit, qu'est-ce que ça veut dire quand tu me dis un Rav qui m'a appris une Mishnah? D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossi? Rabbi Yossi a dit, même si un élève m'a éclairé les yeux sur une Mishnah. Ça veut dire quoi, éclairer les yeux sur une Mishnah? Est-ce que ça veut dire que toute la Mishnah, je la comprenais pas? Ou bien est-ce que ça veut dire que je la comprenais déjà la Mishnah, mais il y avait un détail auquel j'ai pas fait attention, et il m'a dit, regarde ce détail. C'est-à-dire que la Mishnah, je la comprenais, mais il y a un détail auquel je n'ai pas prêté attention, et il m'a montré. Est-ce que je considère que ça s'appelle éclairer les yeux? Alors, Amar Rava, Rava dit, Kegon, comme par exemple, Rav Srora, comme par exemple un Rav Srora, donc c'est quoi un Rav Srora? Un Rav Srora, c'est-à-dire un commerçant, des Asberal qui m'a expliqué, c'est quoi un Zouama Listeron? Alors, Zouama Listeron, c'était une grande cuillère qu'il y avait à l'époque.
C'est pour le suite, cette matière.
Zohama.
Oui, Zohama Listeron.
Alors,
Zohama Listeron, c'était une cuillère particulière. Je ne sais pas si ça existe, je pense pas que ça existe aujourd'hui. Comment il dit ça aujourd'hui?
Une cuillère à écume, ça s'appelle une écumoire en français.
Une cuillère à écume?
À écume, pour enlever la mousse qui se forme.
Non, mais attention, c'est une cuillère spéciale.
Oui,
c'est une cuillère qui a un côté cuillère et un côté fourchette.
Oui, parce qu'il y a des petits trous pour laisser passer les légumes et ramasser que la mousse.
Alors voilà, je vous dis, d'accord? C'est une cuillère qui a deux côtés. D'un côté, c'est une forme de cuillère pour enlever toutes les graisses, pour être capable de déplacer toutes les graisses de la marmite de viande de côté. Et un autre côté, c'est une fourchette pour être capable donc, de piquer la viande et de la prendre. D'accord. Et on appelait ça Zohama Listeron. Il y avait une Mishnah dans laquelle on parlait de ce Zohama Listeron. Et Rava.
Quel mot là d'abord, Zohama? Quel rapport avec une cuillère?
Zohama, c'est la saleté, c'est-à-dire pour déplacer la saleté. Ouais. Et l'hystéra en araméen, c'est de la viande. Donc pour piquer la viande. Donc saleté, viande. D'accord? Et Rava, il y avait une fois une Mishnah. Il avait compris la Mishnah, mais dans la Mishnah, on parlait de Zohama l'hystéron.
Il savait pas ce que c'était. Il lui a expliqué juste
d'accord
ce point-là.
Non, il savait le concept. Il savait à peu près ce que c'était. Mais... Et une fois, il est parti voir un commerçant. Très fort. Il est parti voir un commerçant. Et ce commerçant, il lui a montré le truc. Il lui a dit, c'est ça Zohama l'hystéron. D'accord. Et qu'est-ce qu'il dit Rava? Rava dit, cette personne-là, à partir de dorénavant, est devenue mon maître. Maintenant, si on va réfléchir, cette personne-là, il n'a même pas pensé à la Mishnah. Il ne connaît même pas la Mishnah.
Donc il a fait le Rav.
C'est très fort ce qu'il dit Rava. Alors, parce que Rava, il explique ce que Rabbi aussi dit. Rabbi aussi dit, une personne qui m'a éclairé les yeux sur une Mishnah, c'est un Rav. Ça veut dire que c'est possible que tu donnes un cours, d'accord, et tu parles d'une notion, tu n'as jamais vu la notion, tu as quelqu'un qui est du métier, qui a peut-être même pas compris ton cours, qui n'a même pas écouté, il dormait, etc., tout ce que tu veux, mais il va t'expliquer cette notion, il va dire, oui, j'ai déjà vu, et c'est comme ça, c'est fini, c'est ton rêve.
T'as compris?
Fort.
Donc, enfin, c'est son père. Pour ce cas-là...
Peut-être qu'il n'a pas connu son père, je sais pas, peut-être, oui.
Comment peut-être qu'il n'a pas connu
Qui te dit que son père l'a éclairé les yeux sur une Mishnah? Voilà, il a éclairé les yeux sur une Mishnah,
qui dit le contraire? Je te dis.
Eh bien, ok. Peut-être tu, peut-être non. Toi tu dis si un commerçant était capable de le faire, certainement que le père un jour lui a expliqué.
Sur un objet banal, a fortiori son père lui a donné les éléments pour qu'il comprenne.
Non, notamment
une paire de lunettes.
Attention, il faut que le fils rentre à la maison et qu'il a pris sa Mishnah.
Non, pas forcément.
Ah si.
Pourquoi?
Parce qu'il faut que il faut qu'il éclaire les yeux sur une Mishnah. C'est-à-dire qu'il faut que je rentre à la maison, que j'ai pas compris ma Mishnah 100%.
A priori.
Ah non.
Pourquoi?
C'est le contraire.
Oui,
Rava, il connaissait déjà
le père.
Oui, non.
Lui a permis de comprendre la Mishnah.
Non. Eirenav et Mishnah Achat, c'est-à-dire que j'étais bloqué sur une Mishnah et qui m'a aidé de la comprendre. C'est pas a priori. D'accord? Alors, donc chez Eirenav et Mishnah Achat, même s'il a éclairé les yeux uniquement sur une Mishnah. D'accord? Donc c'est quelque chose.
C'est un cas.
C'est un cas, mais c'est pas mal. C'est très fort, parce que le chidouche qu'il y a dans ce cas, c'est que le commerçant, il connaissait même pas la Mishnah. Et pour lui, il est même pas censé savoir qu'il a appris quelque chose à Rava. Pour lui, un jour, Rava est entré dans son magasin, il a dit, est-ce que vous pouvez me montrer, s'il vous plaît, ce que c'est une Zohama Listeron? Il a montré, Rava a regardé, etc. Il a dit, ok, merci, au revoir.
J'ai compris, et c'est pas essentiel à la compréhension de la Mishnah.
Non, juste il a éclairé les yeux. Rava, il comprenait la Mishnah déjà, mais juste, c'était un détail qui, quand il a vu le visuel, était important pour lui. D'accord? Et bien, quand ce commerçant lui a montré, Rav Srora, quelqu'un qui avait beaucoup de marchandises, et ben il a considéré son Rav.
Gmara raconte une autre histoire. Rav Srora,
c'est quoi? Ça veut dire quoi?
Rav Srora, c'est quelqu'un qui a beaucoup de marchandises.
C'est un jeu de mots?
Oui, si tu veux, ça peut être un jeu de mots, Rav à marchandises. Mais bon, c'est pas le sens. Tu peux faire un jeu de mots si tu veux. Mais c'est...
Non, mais attends, je veux dire, ce qu'ils vont dire dans la Michelin, c'est...
Non, Rav Srora...
C'est le nom de la personne?
Rav Srora, c'est un multi-commerçant. C'est un quelque, voilà, comme M. Bismuth, il a un bazar, ils vont tout ce que tu veux.
Ok, d'accord.
Quoi,
soit ça peut s'appeler, c'est peut-être le Rav Zora.
Non, Srora, c'est la marchandise.
Oui.
C'est comme quand je vais au bazar de M. Bismuth, Eden, quelle rue M. Bismuth?
Ben, il a déménagé.
Avenue Ouin.
Avenue Ouin.
Je
ne
veux pas dire que...
Avenue Ouin.
Bon, on trouve de tout. Bon. La Gemara, elle raconte, elle dit, Shmuel, donc le maître de la Gemara qui s'appelait Shmuel, Karamane, a déchiré ses vêtements. Allez à Oumé Rabanan. D'accord. Il a déchiré ses vêtements, donc bien sûr, quand on déchire ses vêtements, c'est un signe de deuil. Et quand on dit déchirer ses vêtements, on parle ici d'une déchirure qu'on ne pourra plus jamais recoudre.
Ouais.
D'accord.
Pourquoi?
Ce qu'on appelle Kerash et Nomit Aché.
Pourquoi?
Parce que quand on déchire les vêtements pour une personne qui est en deuil, on ne recoupe plus ce vêtement.
Ah bon?
Bien sûr. Kerash et Nomit Aché.
Bien que j'en ai dit, que c'est permis de réciter.
En tout cas, quand c'est pour un tel mitracham comme ça, Rava, voilà, c'est clair que, je sais pas, vous êtes sûr que les gens aujourd'hui recoupent les vêtements?
Ah oui, je crois, oui.
Bon, en tout cas, pour un tel mitracham, évident qu'on recoupe pas les vêtements. Kerash et nomit achet, ça s'appelle. Ça s'appelle une déchirure qui ne se recoupe pas. Et on raconte que Shmuel a déchiré ses vêtements, donc il a déchiré un vêtement dans notre terme, il l'a mis à la poubelle, d'accord? Allez à Oumer Abanan, sur un de... sur un de ses maîtres. D'accord. Alors c'est quoi ce raham? Des Asbéré qui lui a expliqué. Qu'est-ce qu'il lui a expliqué? Il a expliqué une Mishnah qui dit la chose suivante. Une Mishnah qui nous parle de l'ordre dans lequel on ouvrait le Echal. D'accord. L'ordre dans lequel on ouvrait le Echal, donc c'est le sanctuaire. Vous savez que le matin, il y avait tout un rituel, comment on ouvrait le sanctuaire, le Beth Amigdash. D'accord. Donc on nous dit que le Kohen... D'accord. Donc il y a une Mishnah qui nous dit la chose suivante. Ce qui nous dit que le Kohen, ça c'est. Là il fait appel à une autre Mishnah. Je vais vous expliquer c'est quoi cette Mishnah. C'est une Mishnah qui est dans le traité de Tamid, qui nous parle du Beth Amigdash. Et la Mishnah là-bas, elle dit la chose suivante, elle dit que le Kohen qui avait eu. Il y avait un tirage au sort, et le Kohen qui avait gagné Dishun Apnimi, qui avait gagné donc le tirage au sort. Mais attention, il y a eu plusieurs choses. Celui qui avait eu la chance de pouvoir. Dishun, ça veut dire nettoyer le misbéar intérieur, parce qu'il y avait des cendres, donc il fallait nettoyer ces cendres, il fallait nettoyer, les mettre de côté, etc. Ce qu'on appelait le Dishun, d'accord. Alors, et le Kohen, il y avait un autre, donc il y avait un tirage au sort, le Kohen qui avait le mérite donc de nettoyer le misbéar intérieur, et il y avait un autre sort aussi pour le Kohen qui avait le mérite de nettoyer la menorah. D'accord. Donc il y avait plusieurs postes, mais ça c'était deux des postes principaux. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ces deux Kohanim-là, ils rentraient dans le Echal avant qu'on fasse la Shrita du sacrifice Tamid, sacrifice du matin. Donc ils devaient rentrer dans le Echal, dans le sanctuaire, et dans la main de un des Kohanim, d'accord, écoutez bien ce qu'on va dire, il y avait deux clés pour deux portes. D'accord? Deux clés pour deux portes. Pourquoi? Écoutez bien. Parce que quand on rentrait dans le Echal, alors ça c'est la classe, hein, c'est comme dans les grands palais quand vous allez à l'Élysée, on va toujours l'ouvrir de l'intérieur, jamais de l'extérieur. Par cavote, pour dire qu'il y a quelqu'un qui est à l'intérieur qui t'attend, et quand tu arrives, on t'ouvre la porte de l'intérieur. Alors, il n'y avait personne qui dormait dans le Echal. Mais, par cavote pour Akadosh Baruch Hu, on ne voulait pas ouvrir la grande porte du Echal comme ça devant et on ouvre. Il y avait une petite porte de côté, d'accord? Une petite porte de côté. On passait par cette petite porte, d'accord? Et après, il rentrait par derrière et il ouvrait grand la porte et tout le monde rentrait, etc. D'accord? Donc c'était les fameuses deux portes qui ouvraient deux clés. Alors écoutez bien maintenant. Donc on avait deux portes pour ouvrir deux clés. Alors, raconte Shmuel qu'il y a un des Chachamim qui lui a expliqué cette Mishnah, ce que je viens de vous expliquer. D'accord? Parce que Shmuel, il ne comprenait pas. Pourquoi il faut deux clés? C'est quoi ce genre de deux clés? Deux clés pour deux portes. Mais il y a une porte, c'est quoi cette histoire? Et c'est un des Chachamim qui lui a expliqué. Qu'est-ce qu'il lui a expliqué? Donc Daas Berek, il lui a dit, Echad Yoret Leramat Hashechi, d'accord? Que il y avait un des Kohanim, d'accord? Il y avait un des Kohanim qui est rentré Echad Yored le Ramat Hachéri, ça veut dire qu'il devait descendre. Il devait descendre, donc ça, les Ramat Hachéri devait descendre au niveau donc de sa. Ça veut dire qu'il y avait une clé qui était au niveau de. Qui était à ce niveau-là, au niveau du milieu du corps. D'accord? Et il ouvrait la porte de l'intérieur, Vechad Poteach Kivan. D'accord? Et ce qu'il nous raconte, alors il nous raconte encore une deuxième chose.
Une clé qui est posée là, il dit
non, attendez, seconde, c'est pas fini. Il nous raconte encore une autre chose. C'est que derrière, ça c'est encore autre chose, dans le Echad, il y avait deux portes. Donc on passait par une petite porte, par le pichpèche, d'accord? Mais à part ça, il y avait deux portes. D'accord? Alors nous, on le voit pas dans les photos, mais bon, apparemment, enfin dans les dessins, mais apparemment c'était comme ça, il y avait deux portes à l'intérieur. Il y avait une première porte qui avait une clé. D'accord? Donc celui qui rentrait par la petite porte, les coulisses, il rentrait, il ouvrait, donc avec la clé qu'il avait en main, sans cette clé on ne pouvait pas ouvrir. Une fois qu'il ouvrait cette porte, coulissante ou pas, je ne sais pas, en tout cas apparemment c'était une porte, une fois qu'il ouvrait cette porte, derrière il y avait encore une autre porte, et sur cette porte il y avait déjà la clé dessus.
Qui sortait jamais.
Qui sortait jamais.
Pourquoi le quartier s'appelle Mea Shearim. Voilà.
Sans porte. Sans porte. Et ça est. C'est un peu compliqué comme système. Hein.
Oui.
Il y avait deux portes, d'accord. Sur la première porte, il fallait avoir la clé, t'as pas la clé, mais sur la deuxième porte, la clé était déjà là. Mais de l'autre côté, il n'y avait pas de clé.
Oui.
D'accord, il fallait passer par les coulisses. C'est-à-dire, si tu passes par les coulisses, tu peux pas ouvrir.
C'est étonnant, hein.
C'est par cavode, par un cas de
gens. On aurait pas pu ouvrir.
Pourquoi par cavode?
Parce que la clé était derrière.
Ah oui. Ah,
ils ont fait exprès. Probablement qu'il n'y avait pas de serrure devant.
J'ai pas vu une farèche avant.
Hein? Probablement qu'il n'y avait même pas de serrure.
Non, il n'y avait
devant.
Pas. Parce que je n'y avait pas de serrure devant.
Elle ne souffre que dans un sens derrière. Qu'avec une clé.
Non, mais et donc pourquoi ça?
Alors pourquoi on parle de...
Qu'on voit le.
Non, a priori.
Il n'y a pas de serrure.
Ce que le Mefarchim me dit, c'est que c'est par cavode pour Akadosh Baruch
Hu. Pourquoi le cavode? Je vois pas.
Le cavode, c'est que quand on rentre, on n'ouvre pas la porte de l'extérieur.
D'accord.
On ouvre la porte de l'intérieur.
Mais pourquoi la clé elle reste sur la porte?
Ah. Pourquoi il y a deux portes aussi?
Oui.
Ça, je sais pas.
Peut-être simplement qu'ils avaient paumé les clés, il n'y avait plus qu'une seule.
Il n'y a plus de double.
Clé.
Hein.
Je sais pas.
Il n'y a plus de double.
Va savoir. Il n'y a plus de double. Alors on arrive, il n'y en a plus qu'une, on la laisse sur la porte. On ne sait pas, nous.
Je ne sais pas pourquoi.
C'est-à-dire que n'importe qui rentrait pouvait piquer la clé, quand même.
Non, il fallait déjà la clé de celle-là.
Non, une fois qu'elle était ouverte, la porte.
Oui, mais peut-être qu'il y a un dispositif qui fait que la clé, elle est verrouillée, on ne peut pas l'enlever.
On ne peut pas l'enlever.
Non, parce que
ah, peut-être qu'elle fait partie de la serrure, la clé.
Seconde, j'ai préparé ça chez moi, j'avais pas cette gmara chez moi. Non, il faut pas m'oublier.
Ouais, peut-être, mais enfin...
Oui.
Bon, on s'éloigne quand même du sujet.
Peut-être que cette clé ne s'enlève pas.
Oui, comme les barres qu'on met dans les choses à porter.
Justement, d'ailleurs, s'il n'y a pas de problème, qu'on ne puisse pas la voler, etc.
Je sais pas. Je sais pas pourquoi il y avait deux portes. Pourquoi il y avait deux portes, je sais pas. Ici, il ramène un commentaire du Meiri, bon, c'est pas comme Rashi. D'accord. Ici, il ramène un commentaire du Meiri, que le Meiri dit que c'était deux serrures qui avaient sur une seule porte.
Quel intérêt? Pourquoi il dit deux? Il fallait
alors,
deux pour l'ouvrir?
Il dit que apparemment, c'était deux serrures qui étaient sur une même porte, et qu'une fois qu'on avait ouvert la première serrure, la deuxième serrure s'ouvrait rapidement. Mais Rashi ne dit pas comme ça. Rashi dit clairement qu'on parle de deux portes. De deux portes, on ouvrait la première porte. Je sais pas, est-ce que c'était pour une sécurité? Je sais pas pourquoi il y avait deux portes.
Il y a marqué, hein, c'est détaillé.
Vous voyez comment il dit? Il dit pourquoi il y avait deux portes Non, détaillé, je connais le détail, mais pourquoi il y avait deux portes?
Ah d'accord, tu connais le détail. Parce que tu as lu ça?
Ouais, c'est intéressant.
J'ai pas lu, non mais bon, je connais la Mishnah.
C'est intéressant parce que...
Non, il devait enfoncer son bras jusqu'à l'aisselle.
Ouais, jusque-là.
Ah, je sais pas qu'elle... Eh, oui.
Il y avait un trou et tu devais rentrer ta main au fond. Parce
voilà.
Que, alors faire le gars qui a un petit bras, il peut pas.
Parce que là, la traduction n'est pas bonne.
Ouais,
une descente jusqu'à l'aisselle.
C'est le mairie, ça, je dis que le mairie.
C'est une note.
C'est Tétamide.
Non, d'accord, mais sûr, c'est Tétamide. Mais de qui dit ça? De qui sort ça? C'est quoi la référence? Ah, voir Barthénora sur Tétamide.
Ouais.
Ah, c'est intéressant, moi j'ai pas vu Barthénora.
Tu vois, c'est pas que la clé, il a porté là, c'est qu'il fallait qu'il enfonce.
Jusque là.
Il fallait qu'il enfonce jusqu'à l'aisselle.
Ah, ça veut dire qu'il fallait que la porte atteigne ses aisselles.
Voilà.
Pas mal.
Maintenant, il y a une autre idée, c'est qu'il y en a qui disaient qu'il mettait la clé.
C'est qui, c'est Barthénora ça?
Ouais.
Pas mal, ouais. Dans le
il mettait la clé sous l'aisselle. Il
m'a pas remis ça ici. Bon, Razak. Tu m'as appris quelque chose.
Justement. Je vais tomber un sac d'or dans la mer.
Tu es mon maître.
Mais c'est pas fini, là. Après alors, avoir ouvert cette porte, le porteur des clés devait traverser une ouverture voûtée et entrer dans une petite salle appelée Ta, qui jouxait le côté...
Non, ça c'est le contraire. Non. Ça s'en expliquait. Rachid disait qu'on passait par la petite porte pour ouvrir de l'intérieur.
Non, lui il dit apparemment que la deuxième porte, c'était celle où il y avait la clé.
Oui, les clés qui étaient bloquées dessus.
Attends,
déjà.
Mais la troisième, celle qui était...
Troisième.
Alors, ouais, il y avait une porte pour rentrer.
Une porte de coulisse.
Après, tu rentrais ta main. Et dedans, il y avait déjà la clé, donc tu l'ouvrais.
Oui.
Et après, quand tu ouvrais, tu arrivais dans le tas, dans cet espace-là. Et là, tu mettais la clé et tu l'ouvrais. C'était le troisième.
Non, c'est pas ce qu'il dit, Rachid. Rachid,
non, c'est pas ça que
Rachid dit pas comme ça.
Rachid dit dans le mur qui séparait le tas.
Rachid dit qu'une fois qu'on ouvrait la première porte, la deuxième porte elle s'ouvrait toute seule. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de la clé était déjà dessus.
Alors il apercevait une autre porte, donc c'est la dernière. Là, on est dans la dernière, dont la serrure était cette fois-ci facilement accessible.
Voilà.
Et pour l'ouvrir, il lui suffisait d'y introduire directement la clé.
Ouais. C'est Méry ça, c'est Bartonoura parce
que la mission veut dire par une clé ouvre rapidement.
Ah non, Rachid dit pas ça. Rachid dit Vérat Poter Kivan. Il dit que la première porte, elle était difficilement, il fallait l'ouvrir avec une clé. Et la deuxième clé, Rachid dit Vérat Poter Kivan, c'est que dans la deuxième clé, on dit qu'il y avait, tout de suite.
C'est exactement ça. Donc il mettait déjà la main jusqu'aux aisselles.
Ça c'est la première porte.
C'est la deuxième.
Deuxième.
Non, oui, bon j'ai compris, c'est d'accord. Oui, après qu'on est passé par la petite porte.
Voilà. Et après, une fois que tu as ouvert la porte, celle-ci où tu es obligé d'aller jusqu'aux aisselles. Après, tu traverses le tas, qui était un espace. Là, arrives sur la porte du sanctuaire.
Et celle-là, il y avait une serrure dessus, déjà. Il y avait une clé dessus.
Non, bah justement, non. Il semblerait que ce soit celle où, où tu enfonçais la main. C'est normal. Quand tu enfonces la main, tu ne vois pas la serrure. Donc forcément, la clé, tu dois la laisser là.
Tu es sûr qu'il dit ça, que la deuxième serrure, il n'y avait pas la clé sur la serrure ?
Non, il ne dit pas ça.
Oui, je pense.
Il dit clairement qu'il n'y avait
pas de clé, mais il dit là...
Rachid dit qu'il y avait la clé sur la serrure.
Il a introduit directement la clé, donc ça veut dire
qu'il parle de. Peut-être, il faut que je vois dans la Gemara Tamid. Peut-être que dans la Gemara Tamid, Rachid dit comme ça, mais là, Rachid dit qu'il y avait la clé sur la serrure. Bon, quoi qu'il en soit, vous voyez que c'est pas simple, c'est compliqué.
Parce que tu ne le vois pas. Donc tu es obligé de rentrer ta main, tu ne vois pas.
Comment compris ça.
Comment tu vas identifier la serrure ?
Ce que je veux dire ici, c'est ce qu'on comprend d'ici, c'est que dans la deuxième porte, il y avait la clé déjà sur la serrure. Rachid dit ça après.
Oui, mais tu as dit qu'il y a trois portes.
Trois portes.
Donc première, tu ouvres.
Sur la dernière porte, la porte qui donne au public, la clé était déjà sur la serrure. Okay. Bon,
faut voir. C'est Rachid qui dit ça ?
Ouais, Rachid dit ça ici. Peut-être que dans ta vie. Je vais voir dans la Khazara, je regarderai dans ta vie.
On retient Rachid.
D'accord ?
La vie de Rachid, on retient.
Alors, non, c'est intéressant ce qu'il dit avec le Bartonoura, là, qui dit là, que la main elle devait aller jusqu'aux aisselles parce que la porte, enfin le trou était loin, c'est pas mal ça. Rachid dit pas ça ici. Bon. Enfin, il dit rien, Rachid, il n'explique pas ça du tout, quoi, mais c'est intéressant. Alors, en tout cas, Shmuel, on revient à notre sujet, c'est une parenthèse tout ça. Shmuel a déchiré ses vêtements sur un chacham qui lui a appris cette halakhala. Tu lui as expliqué comment
c'est pareil, hein.
Ouais, parce que Shmuel avait du mal à comprendre. Et une fois, il y a un chacham qui lui a dit, voilà, je vais vous expliquer la halakha. Il lui a expliqué, Shmuel a compris. Et quand Shmuel a compris, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'à ce moment-là, Shmuel a fait kriya sur, d'accord ? Shmuel a fait kriya sur...
Sous-entendu, lui, il est mort. C'est lui qui l'a enseigné.
Bien sûr.
C'est ça. Ouais. Donc quand il est mort, il a fait ça.
Ouais. Voilà.
Alors on fait ça
sur son rav, comme on a dit, on ne peut pas, on n'a pas le droit de... Ça veut dire qu'il a considéré ça comme son rav, voilà. Et que pour son rav, on n'a pas le droit de recoudre, d'accord, de recoudre du tout la déchirure. Amar Oula. Oula, il raconte, il dit la chose suivante. Alors on va faire encore un petit quelques lignes, on s'arrête.
Pas rav, parce qu'en babylonien, on l'appelait pas.
Amar Oula dit, Talmide Chachamim chez Bavel, les Talmide Chachamim qui étaient en Babylonie, d'accord. Donc ça veut dire qu'ils étaient assis au Beit HaMidrash et que dans le Beit HaMidrash, chacun il posait des questions à l'autre et tout le monde apprenait l'un de l'autre. Donc dans ce cas-là, on n'en finit plus. Mm. D'accord. Si tu considères que dans ce cas-là, tout le monde est son rave. Mm. Alors on dit « Omdim Zemufnezé », ils avaient l'habitude de se lever l'un devant l'autre, comme un élève qui doit honorer son rave. Ils avaient l'habitude de se donner le kavod et de se lever un devant l'autre. Ça veut dire, comme le Ritba explique, il dit que chacun considérait son ami comme son maître, comme son vrai maître. Et Vekorin Zealze. Et ils avaient l'habitude de déchirer les vêtements l'un pour l'autre. Mais, attention, ou les Inyan Aveda Bukom Aviv, mais en ce qui concernait la perte, ça veut dire pour les faire passer à la place de leur père, normalement le maître il passe avant son père, et Namchozrim, et là les rabots mouvrent. Dans ce cas-là, ils faisaient passer seulement vraiment leur vrai maître, ça veut dire le rav du Beit HaMidrash. C'est-à-dire que c'est une khumra qu'ils ont pris sur eux-mêmes. Mais ils n'étaient pas obligés parce qu'ils sont au Beit HaMidrash. C'est une khumra qu'ils ont pris sur eux-mêmes d'appliquer cette règle-là à tous leurs amis, puisqu'ils se disent que c'est obligé qu'un ami m'a appris quelque chose, c'est obligé. Il m'a posé une question, il a répondu quelque chose, c'est obligé qu'il m'a appris quelque chose. Mais ils appliquaient pas ce principe-là donc pour ce qu'ils pouvaient. Par exemple, ils se levaient quand ils rentraient au Beit HaMidrash, ils assistaient à la Raya, ils déchiraient les vêtements, etc. Mais pour faire passer avant le père, ça, ils n'ont pas pris la khumra.
Si, Si ils ont pris, d'accord. Mais si c'est le rat
seulement,
principal.
Bien sûr. Ouais. Donc pas pour les élèves, donc pas pour les amis. D'accord. Seulement pour le rabbo mouvahak, ça veut dire par exemple le rav du Beit HaMidrash, celui qui m'a vraiment appris, celui qui m'a vraiment appris la majorité de ma sagesse. Bon, on va s'arrêter ici. On continue notre prochaine grande chaîne. On n'a pas encore parlé de beaucoup de cas, d'accord. Par exemple, le maître qui m'a appris un métier, on a encore beaucoup de détails entre le rave et le maître, le lien qui est entre le rave et le maître. On va voir tout ça dans ta chaîne la semaine prochaine.
Aujourd'hui, on dit chinois tova.